Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir un numéro de Profession Philosophe enregistré avec Catherine Malabou et initialement diffusé le 22 novembre 2019. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par elle-même de la philosophe Catherine Malabou. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
Oh oui, ça ne me gêne pas du tout.
Ça ne me gêne pas. C'est pas un défaut.
Non, non, pas du tout. Au contraire. Non, j'assume. J'assume totalement cette étiquette. Je sais que quand on avait posé la même question à Hannah Arendt, elle avait répondu non, pas du tout. Je me définis pas comme une philosophe. Je sais que Judith Butler aussi a beaucoup de mal à se laisser définir comme ça. Bon, personnellement, je vois pas où est le problème. Je trouve ça très bien.
Est-ce que c'est un métier pour vous?
Ben, voilà, ça c'est un problème. Je pense que quand elle refusait de se définir comme philosophe, c'est qu'elle voulait pas en faire un métier. Est-ce qu'on a le choix? Je veux dire, le problème, il est là. C'est-à-dire, quand on fait des études de philosophie, qu'on se sent effectivement appelé par cette discipline, il est difficile de ne pas en faire un métier.
Vous êtes senti appelé? C'est une vocation pour vous?
Totalement, oui, c'est une vocation. Et quand on devient enseignante, c'est là qu'il me semble qu'on n'a pas grand choix. On n'a pas grand choix, on est obligé de faire ça. On est obligé de se diriger vers les concours et vers l'enseignement. Je ne le regrette pas du tout, parce que j'aime beaucoup enseigner, mais j'ai senti que je n'avais pas vraiment le choix. Voilà.
Et le métier de philosophe, c'est enseignant ou chercheur, ou les deux?
Ça, c'est une invention du capitalisme cognitif, hein, enseignant-chercheur. Ça n'a franchement aucun sens. Je n'aime pas du tout cette appellation parce que c'est le mariage de la carpe et du lapin d'une certaine manière.
Ce sont deux activités très différentes.
Ce sont des activités. Alors, soit elles sont très différentes, effectivement, soit elles sont identiques. Donc, il n'y a aucun sens à parler d'enseignant-chercheur. Il faudrait trouver un autre terme.
En tout cas, vous enseignez la philosophie à l'université de Kingston, à Londres.
Oui.
Vos recherches lient la philosophie hegelienne, les neurosciences et les nouvelles technologies, notamment la question de l'intelligence artificielle. Et s'il fallait retenir un concept central ou une sorte de fil conducteur dans votre travail, ce serait celui de la plasticité, non?
Oui, alors effectivement, on me définit souvent comme ça, parce que c'est un fil que j'ai suivi pendant très longtemps. Parfois, ça me dérange qu'on me définisse comme ça, parce que c'est une forme de fétichisation d'un concept. Et puis, d'autres fois, ça ne me dérange pas, parce que je pense qu'en philosophie, en fait, on n'a qu'une seule idée. Et donc, après tout, pourquoi pas celle-là?
Et aujourd'hui, ça vous dérange ou pas?
Non. Non, aujourd'hui, ça ne me dérange pas.
On est tombé le bonjour.
Disons que parfois, on me parle de la plasticité sur un mode un peu ironique. Voyez, on dit « Ah, Malabou, ah oui, la plasticité, voilà. » Alors ça m'énerve évidemment quand on réduit d'une certaine façon mon travail à l'exploitation répétitive et sérielle de ce concept. Quand on en parle de façon ouverte, ça ne me dérange pas.
Qu'est-ce que c'est la plasticité?
La plasticité, c'est le fait que le changement vient avant l'être. Voilà, si j'essaye de le définir, ce concept très simplement, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'abord une identité fixe ou un fondement ontologique quelconque, puis des transformations, mais que la transformation prime sur la fixité. Donc évidemment, ça remet en question un certain nombre de choses dans la philosophie elle-même, puisque ça veut dire en quelque sorte que le façonnement vient avant l'être.
Nous allons passer 50 minutes ensemble pour découvrir votre conception, votre pratique du métier de philosophe, en remontant jusqu'aux origines de votre rencontre avec la philosophie, en questionnant vos sources d'inspiration, en pénétrant dans votre atelier de fabricante de concepts, parce qu'il y a la plasticité mais il y en a d'autres, et enfin en interrogeant le rôle du philosophe dans la cité, puisque vous-même vous présentez votre parcours conceptuel comme, dites-vous, un masque à transformation. On retrouve là le concept de plasticité.
Oui, on le retrouve. C'est un peu exactement ce que je disais, c'est-à-dire que une identité de philosophe, elle se forme au cours du temps. Je crois que Foucault a raison quand il dit « je n'ai qu'un objet d'étude, c'est ma propre transformation ». Je trouve ça très très juste. On n'est que ce qu'on se fait en philosophie. Même si on a des formes d'attirance originelles, originaires, comme moi j'ai pu avoir pour Hegel, ça n'a de sens que si cette accroche première, ce que Socrate appelle le consentement, ouvre un horizon, mais à l'intérieur de cet horizon, évidemment, il y a des remplissements qui sont une somme de transformation.
En philosophie comme dans la vie, non ?
Absolument, en philosophie comme dans la vie, oui.
La philosophie n'est que le reflet de
l'existence. Alors, la difficulté, c'est de penser que cette série de transformations ne signifie pas pour autant une forme de versatilité ou de... on ne se retourne pas comme des feuilles. Hein. C'est un mélange entre une basse continue et puis des variations. C'est comme en musique, c'est un peu aussi ce que décrit Husserl. Je suis en train de relire là les méditations cartésiennes, c'est exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire c'est cette espèce de présent qui dure. On est dans un présent qu'il appelle le grand maintenant, et dans ce grand maintenant, il y a des variations.
Vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ?
Oui, alors c'est très banal, parce que bon, moi, ma première rencontre avec la philosophie, ça a été en terminale. Et plus précisément, alors ma professeure que j'avais à l'époque, mais aussi la lecture de Sartre. Et c'est arrivé à peu près en même temps, puisque c'est cette enseignante qui nous avait fait lire Sartre.
Quoi de Sartre ?
La nausée, d'abord, et puis d'autres textes. Alors, par difficulté graduelle, l'existentialisme est un humanisme. Et puis après, les textes sur l'imagination et la transcendance de l'ego.
Et vous vous souvenez ce qui vous a marqué chez Sartre, dans la nausée, par exemple ?
Oui, à l'époque... On m'avait dit, vous savez comment on est catégorisé dans les parcours scolaires, on m'avait dit vous êtes littéraire. Donc bon, moi je croyais que je ferais des études de lettres, et j'ai senti en lisant La Nausée quelque chose comme un décrochage dans le texte, c'est-à-dire j'ai vu passer une ligne de partage, un peu improbable, je ne vous dirai pas où elle passe exactement, mais entre la littérature et quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui pourrait être la philosophie. La Nausée, c'est un roman qui est extraordinaire pour ça. C'est qu'il confronte dans une forme d'unité contrastée l'écriture et puis la pensée. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Je me suis dit peut-être qu'au fond, tu feras autre chose que simplement de la littérature. Enfin, peut-être qu'il y a autre chose en toi. Voilà, c'est ni mieux ni plus mal, mais autre chose.
C'est fou parce que c'est exactement l'expérience du narrateur de La Nausée, Roquentin, qui oui, regarde le monde qui est dans les livres et qui soudain est... saisi par un sentiment qu'il n'arrive pas à définir en contemplant un marronnier, par exemple.
La racine du marronnier, absolument, qui est l'existence, la pâte des choses. Et je sais que beaucoup de philosophes se moquent de ce roman. J'ai jamais compris pourquoi, parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre et à valeur d'initiation incontestable. Donc voilà, ça s'est passé comme ça pour moi.
Et c'est ce texte-là qui vous a donné envie de continuer à étudier la philosophie ?
Oui, absolument.
Et d'en faire votre métier.
Oui.
Tout part de là.
Oui. Même si, par la suite, je n'ai jamais vraiment relu Sartre. Enfin, je l'ai lu comme ça, par à-coup, quand j'en ai eu besoin, pour mon enseignement ou pour autre chose. Mais je n'y suis plus jamais vraiment revenu comme à une source.
Alors, écoutons comment Sartre lui-même définit son rapport à la philosophie et le rapport de la philosophie à l'existence.
Je crois que le propre de la philosophie est existentiel. Comme d'ailleurs du marxisme, c'est qu'il est à peu près impossible de la concevoir autrement que dans la rue, dans le monde, liée à tous les problèmes, les plus concrets comme les plus abstraits. Je crois que ceci ne vient pas de l'existentialisme lui-même, mais il vient, comme le marxisme l'a indiqué, des exigences de l'époque. Il y a eu déjà une époque où la philosophie était vraiment... une manière de vivre, une attitude et une action. C'était l'époque grecque, du temps des stoïciens et des épicuriens. C'était même déjà une lutte et elle reflétait les luttes civiles de l'époque.
La philosophie doit se faire sur les problèmes de l'époque. Vous êtes d'accord avec lui, Catherine Malabou ?
Oui, tout dépend comment on l'entend. Tout dépend comment on l'entend. Bon, Sartre a été le premier philosophe médiatique. Je veux dire, à partir de lui... Le rapport entre la philosophie et le public a définitivement changé. Et les nouveaux philosophes, si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais les nouveaux philosophes, quand ils sont apparus, se sont réclamés de Sartre. Sartre est quand même le premier philosophe qui a parlé dans les médias, qui a eu une audience extraordinaire, qui a parlé dans les journaux, etc. Donc, Il est un peu, pour moi, sa position est un peu ambiguë, parce que la philosophie soit liée aux problèmes quotidiens, à la vie de tous les jours, à ce qu'il appelle la rue, je suis d'accord. Maintenant, la dérive médiatique, c'est peut-être quelque chose que je questionne.
Et vous pensez qu'on ne peut pas exercer son métier de philosophe tout en étant sur les médias? Parce que vous y êtes,
oui,
Catherine Malamou.
Bien sûr, mais vous voyez qu'il y a une différence entre venir faire une émission comme la vôtre, qui est une émission... Enfin, j'ai tout à fait confiance dans les chemins de la philosophie, et puis être ce que j'appellerais le préposé à l'événement. Vous voyez, c'est-à-dire réagir sur tout, tout le temps, partout. Bon, y avait, me semble-t-il, une dérive possible à partir de Sartre vers cette tendance-là. Parce que je ne crois pas que le philosophe puisse avoir réponse à tout, si vous voulez. Bon. Alors non, c'est pas incompatible avec les médias, il est nécessaire d'aller dans les médias, d'essayer de s'adresser à tous, etc. Mais bon, puis cette confiance dans le marxisme qu'il exprime, là...
Donc la nausée de Sartre vous a marqué, mais moins que le personnage, c'était pas votre maître à penser.
Non, je pense, voilà, je pense que ce serait une étiquette que... Enfin, c'est un mot que je refuse complètement. Je me rappelle, Derrida dit, vous, il vous faut des contre-maîtres. Mais c'est vrai que je préfère avoir un contre-maître qu'un maître à penser, oui.
Donc vous avez eu Derrida comme prof?
J'ai eu Derrida comme patron de thèse, oui, comme patron de thèse, directeur de thèse, oui.
Et il a eu une grande influence sur votre travail?
Oui, énorme, énorme.
De quel type?
Ah ben, quand j'ai découvert, alors bon, puisqu'on revient sur mon parcours, donc j'ai découvert la philosophie en terminale, et puis ensuite j'ai fait les classes préparatoires, une cagne, etc., l'école, et puis j'ai préparé l'agrégation, j'avais un rapport très classique à la philosophie, et bon, quand j'ai lu Derrida, Rousseau était au programme, et j'ai lu de la grammatologie à ce moment-là, je peux dire que tout a basculé, quand j'ai découvert la déconstruction... Quand j'ai découvert qu'il existait, qu'il pouvait y avoir, on va dire, une lecture de la philosophie, lecture de la tradition philosophique. C'est-à-dire un point de vue sur l'histoire de la philosophie, des origines à nos jours, détectant dans cette histoire une orientation. Voilà. Ça, j'ai été très impressionnée par ça. Donc c'est Heidegger le premier qui avait entrepris une telle chose, mais je l'ai découverte par Derrida. Voilà, qu'au fond, la philosophie n'était pas la philosophie, mais une certaine tradition. La philosophie aurait pu être tout autre chose. Elle a été ce qu'elle a été parce qu'une certaine direction a été suivie, qui est la métaphysique, c'est-à-dire un privilège donné à la présence, un privilège donné à l'éternité, un privilège donné à l'être. Voilà, donc ça, et qu'il était possible de déconstruire cette tradition, pour peut-être laisser entrevoir ce que la philosophie aurait pu être.
Et pourtant, vous n'avez pas perpétué cette déconstruction dans votre travail.
Même chose, c'est-à-dire que je n'ai jamais, encore une fois, supporté les maîtres à penser, et de fait, Derrida, avec tout le respect que j'ai pour lui et toute l'admiration que j'ai pour lui, avait évidemment cette tendance-là aussi.
Alors Sartre, Derrida, il y a encore un nom de philosophe qu'on n'a pas prononcé alors qu'on le trouve souvent dans vos écrits, oui. C'est Hegel.
Alors Hegel, ce que j'aime, si on reste à ce niveau assez superficiel hein, du maître et du... Hegel est quelqu'un qui, clairement, je pense pouvoir le dire, n'a aucun narcissisme. Je pense que c'est quelqu'un qui a passé son temps à s'effacer lui-même de son œuvre, de façon extrêmement efficace, puisque sa dernière œuvre, qui est l'Encyclopédie philosophique en abrégé, est un abrégé, comme son nom l'indique, ne porte absolument aucun nom d'auteur. Hegel ne signe pas. Et je pense que la figure de la maîtrise lui aurait fait horreur, même si c'est un grand maître. Mais il n'avait pas ce côté, on va dire, allez, subjectivement magistral. Je ne pense pas que son but était de régner sur les esprits.
Non, mais un texte peut avoir une grande influence sur soi, indépendamment de son auteur. C'est plutôt ça le sens. Je ne pense pas qu'Hegel ait été votre maître, puisque par définition, même si vous en parlez comme si vous l'aviez rencontré.
Ah mais je pense qu'il est comme ça. Enfin, il joue ce rôle-là pour beaucoup d'universitaires qui ont dévoué leur vie à ça, à l'étude de sa pensée.
Et qu'est-ce que vous retenez alors de Hegel, de sa pensée? Qu'est-ce qui vous est utile aujourd'hui?
Ce qui m'a toujours été utile, c'est sa définition de la dialectique comme capacité de regarder des deux côtés à la fois, d'une idée, d'un problème ou d'une chose. c'est-à-dire être capable de tenir le pour et le contre en même temps dans un examen, quel qu'il soit. Encore une fois, une idée. Bon, donc systématiquement, et ce qui s'applique à soi-même aussi, savoir être capable d'aller contre sa propre nature. Ça, c'est une méthode que je continue à appliquer. Et, l'invention de la contradiction en philosophie, enfin le poids donné à la contradiction, me paraît essentiel.
À partir de quand vous êtes-vous dit que votre propre pensée était en train d'émerger ? Un livre où vous êtes dit, voilà, ça c'est ma pensée, c'est pas simplement l'héritage de Sartre, oui. Derrida ou Hegel.
Moi, c'est un peu prétentieux de parler de ma propre pensée, mais disons que...
C'est pour ça que c'est moi qui le fais.
Disons que... Écoutez, je vais vous répondre très simplement. C'est le jour où j'ai cessé d'avoir peur. J'étais toujours très impressionnée avant, quand je prenais la parole, ou quand je discutais justement avec mes professeurs, avec mes maîtres, appelons-les comme ça pour le moment. Le jour où je me suis dit, maintenant, je ne crains plus personne. Non pas que je me sente sûre de moi, c'est pas la question, mais que, au fond, personne n'avait rien à me démontrer, voilà, que j'étais tout à fait capable de défendre mes propres idées sans trembler. Et ça, je dirais que c'est arrivé avec Que faire de notre cerveau, c'est-à-dire quand j'ai commencé à faire cette enquête sur la neurologie et appliquer mon concept de plasticité à ce domaine, là, j'ai senti que je partais. Là, j'ai senti que je m'affranchissais d'un certain nombre de gens et de conduites. Aussi parce que, en tant que femme, bon, j'ai aussi travaillé là-dessus, dans changer de différence, et je pense que ça reste encore le cas. Il est encore, aujourd'hui, très difficile de s'affirmer comme femme philosophe. Donc, quand je dis ne plus avoir peur, c'était pas seulement ne plus avoir peur des maîtres, mais ne plus avoir peur des hommes. Parce que, pendant très longtemps, enfin, pendant toute ma jeunesse, etc., j'étais entourée d'hommes. J'ai eu quasiment, à part mon prof de terminale, que des profs masculins, etc. Et les gens que j'admirais, c'était des hommes. Donc le jour où j'ai plus peur.
Et vous avez senti le fait d'être une femme, vous dites que ça vous effrayait d'être dans ce monde d'hommes, le monde d'hommes philosophes. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez pour autant que ça change quelque chose à votre pensée, d'être une femme en philosophie ?
Oui, je pense. Non pas que je ferais une philosophie qui serait spécifiquement féminine, mais je pense que quand on est comme ça dans une tradition, quand on s'inscrit dans une tradition qui est majoritairement masculine, on est obligé, pour s'affirmer, quand on n'est pas un homme, de développer une radicalité spécifique qui n'est pas la même que celle effectivement d'un homme. Je pense que c'est un peu comme si vous me demandiez, au fond, il n'y a pas beaucoup de noirs dans l'histoire de la philosophie. Est-ce que pour vous ça change d'être noir ? Je dirais oui, bien sûr, bien entendu. Parce que on doit se faire reconnaître d'une certaine manière. On porte le passé, je dirais, d'un esclavage. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
Non, mais on pourrait choisir d'autres formes de caractéristiques que son genre, par exemple. On est déterminé par autre chose que par le genre.
Ah oui, oui, non, bien sûr. Si, en ce sens-là, ça, effectivement, c'est pas en ce sens-là que je disais. C'est au sens d'une exploitation, on va dire politique. C'est-à-dire de voix qui sont longtemps restées étouffées et qui, tout d'un coup, ont la parole. Enfin, qu'on peut entendre tout d'un coup, comme par exemple, oui, effectivement, tous ces mouvements récents de voix africaines qui se sont levées. C'est un petit peu dans ce sens que je l'entends. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a la parole. Bon.
Il n'est pas anodin que dans ce cas, dès que vous ayez le courage d'écrire en votre nom, vous écrivez sur le cerveau. Que faire de notre cerveau ?
Oui.
C'est quand même un organe universel et pas du tout genré. Comme pour revendiquer votre appartenance à quelque chose qui était de l'ordre de l'universel.
Oui, vous, tout à fait. Si, je ne m'enferme pas du tout dans une problématique de genre. Mais vous voyez, ce qui est intéressant avec le cerveau, c'est que, bien sûr, vous dites c'est universel, et bien sûr, vous avez raison, et en même temps, c'est un organe très délaissé. C'est un organe qui n'a pas eu la parole non plus pendant extrêmement longtemps en philosophie, même, je dirais, jusqu'à très récemment. Aucun philosophe ne lui a accordé un rôle déterminant dans la pensée, c'était rejeté, enfin le cerveau a toujours été rejeté du côté de la psychologie, ou bien, on va dire, de l'histoire, de la biologie, de l'histoire naturelle. Ou de l'animalité. Mais au mieux, chez Bergson, il a eu un rôle de représentation, transmission d'informations, comme dans les standards, vous savez, dans les hôtels avant, mais aucun rôle de création symbolique. Donc c'est un organe qui m'intéresse parce que il est central, il est universel et en même temps il est resté lui aussi obscur pendant des siècles.
Alors si on essaye de cartographier votre cerveau et de voir comment elle se lie à votre cœur, on trouve notamment ceci.
Écoute-moi, comme toi, je connais l'oubli.
Non, tu ne connais pas l'oubli.
Comme toi, je suis douée de mémoire, je connais l'oubli.
Non, tu n'es pas douée de mémoire.
Comme toi, moi aussi, j'ai essayé de lutter de toutes mes forces contre l'oubli. Comme toi, j'ai oublié. Comme toi, j'ai désiré avoir une inconsolable mémoire. Une mémoire d'ombre et de pierre. J'ai lutté pour mon compte, de toutes mes forces, chaque jour. Contre l'horreur de ne plus comprendre du tout le pourquoi de ce souvenir. Comme toi, j'ai oublié. Pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire ?
Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, un extrait d'Hiroshima, mon amour, le film d'Alain René de 1959. Sur les bons conseils de notre invitée Catherine Malabou, pour ce profession philosophe, vous parlez de ce film dans votre ouvrage qui s'appelle Les Nouveaux Blessés, de Freud à la neurologie, penser les traumatismes contemporains. C'est-à-dire que voilà, vous travaillez sur le cerveau, mais aussi sur ce qui le constitue, notamment la question de la mémoire, n'est-ce pas ?
Oui. Alors, ça aussi, ce film, il a été déterminant pour moi dans ma formation philosophique. Puisque je l'ai vu la même année que l'année où j'ai lu Sartre. Et évidemment, ça m'a révélé l'existence du trauma. Je crois que j'ignorais jusqu'à ce mot hein, quand j'avais 18 ans. Et la mémoire, comme vous dites. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il rompt avec une vision trop fréquente. Enfin, une vision unilatérale, quand on dit tout à l'heure, regarder des deux côtés d'une chose. C'est-à-dire, pas seulement le trauma, mais aussi le fait qu'on l'oublie. Le passage qu'on vient d'entendre.
Oui, dites-nous, si on n'a pas le film en tête, qu'est-ce qu'on vient d'entendre en fait ?
Eh bien, c'est l'histoire donc, de deux traumas qui se rencontrent d'une certaine façon par l'intermédiaire d'une histoire d'amour entre une jeune infirmière qui a eu une histoire avec un Allemand pendant la guerre et est restée enfermée dans une cave par ses parents, et puis un Japonais qu'elle rencontre à Hiroshima parce qu'elle est actrice et elle vient tourner un film. Et l'autre trauma, bien sûr, c'est la catastrophe nucléaire. Donc il va y avoir la confrontation de ces deux traumas à travers cette très très belle histoire d'amour déchirante, parce qu'impossible, à la fin elle repart. Mais en fait, le cœur de leur discussion, parce qu'ils parlent beaucoup, c'est que malgré la douleur et malgré le choc, ils vont oublier aussi. Et elle commence à dire j'oublie ce jeune homme, j'oublie mon séjour dans la cave, et donc... Le trauma est lié autant au souvenir qu'à la plasticité, justement, c'est-à-dire au fait qu'on guérit de tout. On guérit sans guérir, mais quand même, on s'en relève. Et donc au cœur de la catastrophe, il y a cette horreur, mais ça c'est Duras, hein, qui est que la pire horreur, c'est d'oublier l'horreur, quoi. C'est de s'en remettre d'une manière ou d'une autre. Donc je trouve que ce film est vraiment génial.
Vous dites qu'il a eu autant d'impact, enfin que vous l'avez rencontré en même temps que le texte de Sartre, ça veut dire que dans votre travail de philosophe, les films et d'autres formes d'art que la philosophie, oui, si tant est un art, a une influence sur votre travail.
Bien sûr, oui. Oui.
De quelle manière ?
Je pense que si on se réfère à la définition la plus connue de la philosophie, qui est celle de l'appel et du consentement, ça veut dire que d'abord, on écoute. Je veux dire, on est appelé à la philosophie par une voix. Et cette voix, elle n'est pas forcément linguistique. Ça peut être aussi un appel musical, c'est un appel artistique, c'est un appel scientifique. Mais si on n'est pas appelé, il ne se passe rien.
Eh bien, voici l'appel de Nathalie Stutzmann. qui est Nathalie Stutzmann, que nous sommes en train d'écouter en duo avec Philippe Jaroussky dans ce duo de Handel, Sonata à Lagrima.
Oui, alors il faut bien... Enfin, peut-être c'est évident pour les auditeurs, mais la voix grave, la voix mezzo-soprano, c'est elle. Et la voix aiguë de contre-ténor, c'est Philippe Jaroussky. C'est un aria de Handel qui s'appelle « Je suis née pour pleurer ». Alors Nathalie Stutzmann, elle me fascine parce que elle est à la fois chanteuse et directrice d'orchestre. Et donc c'est un cas très très rare, je sais même pas s'il y a un homme qui fait ça. C'est-à-dire qu'elle se retourne, elle est dos au public quand elle dirige et face au public quand elle chante. Et elle arrive, elle est aussi douée pour l'interprétation que pour la conduite. Et ça, c'est extraordinaire. Ça montre que on peut être à la fois interprète et directeur de soi-même. Quoi. On peut être à la fois créateur et son propre interprète. Et voilà. Et cette voix me transporte à chaque fois, et c'est pour moi. Vous me demandiez si j'étais, si je prenais des influences ailleurs que dans la philosophie, si je pouvais ressembler à quelqu'un en philosophie, ça serait à elle.
Ça tombe bien parce que nous sommes en duo ce matin, Catherine Malabou, même si je n'ai aucun point commun avec Philippe Jaroussky. Si on vous suit dans votre atelier, puisque vous nous racontez comment vous avez rencontré la philosophie, ce qui vous a inspiré, les philosophes, cette chanteuse et chef d'orchestre, le film d'Alain René. Si on s'intéresse maintenant à la manière que vous avez de travailler, en clair, comment les idées que vous avez, qui figurent aujourd'hui dans vos ouvrages, nombreux, je l'ai dit, sur le cerveau, l'accident, la plasticité, Hegel aussi, vient l'intelligence, etc., comment est-ce que ces idées vous viennent? Vous avez dit au début d'émission que, comme Bergson, vous pensiez qu'au fond, chaque philosophe n'avait qu'une idée qu'il essayait de dire toute sa vie. Une chose tellement simple, dit Bergson, que c'est pourquoi le philosophe essaie de parler toute sa vie. Vous souscrivez à ce constat?
Oui. Il y a un texte de Jean-Luc Marion au début de son livre sur les passions de Descartes, sur le corps et les passions. Il dit parfois, il arrive qu'un philosophe en ait deux idées, mais jamais plus de deux, et en tout cas, le plus souvent, une. Et non, oui, je souscris tout à fait à ça. Je pense pas que... Encore une fois, les idées, elles peuvent se multiplier, mais à partir d'une souche. Je crois pas qu'on puisse en avoir beaucoup plus qu'une.
Mais là, c'est plus qu'une idée. Parce que les idées, on en a des milliers par minute. Enfin,
ça
dépend des personnes.
Une idée, au sens fort, voilà, faut savoir ce qu'on entend par une idée. C'est quelque chose qui vous regarde, hein. Je crois que c'est Deleuze qui dit ça, c'est un regard, c'est quelque chose qui vous fixe. C'est pas vous qui l'avez, hein.
C'est comme la grâce de Dieu, elle vient à vous.
Oui, absolument. C'est quelque chose qui vient frapper à la porte, enfin qui vous interpelle, parce que sinon ça serait impossible. Alors ça n'a rien à voir avec les choses qui nous passent par la tête, ce qu'on appelle les impressions, les opinions, ou des choses comme ça, ou tous les actes mentaux. Quel qu'il soit, ou psychologique. L'idée, c'est une interpellation, c'est une sommation. Et donc, il faut y répondre, il faut obéir, il faut répondre. Ce regard dont je parle, il n'est pas forcément en haut, hein. Il peut prendre la forme de quelque chose qui vous pousse dans le dos. Voilà. Et pour moi, si vous me demandez comment ça se passe pour moi, eh bien, ça se passe qu'en général, je me sens tout d'un coup prisonnière d'une situation. Et j'ai envie d'y échapper. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'un problème philosophique s'impose à moi en me donnant une sensation à la fois intellectuelle et physique et psychologique de malaise, mais d'un malaise lié à la clôture. Comme si j'étais enfermée, vous voyez, un peu dans un ascenseur ou quelque chose comme ça. J'exagère à peine. Hein, en me disant, il faut que tu te sortes de là.
Et comment ça se passe à ce moment-là?
Alors, je commence à lire de manière frénétique, jusque parfois à la torture, jusqu'à ce que je trouve... Alors, pour vous donner un exemple, quand j'ai écrit ma thèse sur Hegel, je voulais sortir du carcan des interprétations de Hegel au XXe siècle. C'est-à-dire, Hegel est un penseur de la totalité. Hegel est un penseur pratiquement du totalitarisme. Il annonce la fin de l'histoire, bon, etc. Je me dis, non, c'est pas ça. Et donc, voilà, il fallait que je trouve une issue. Et cette issue, ça a été la plasticité. Et ça, voilà, ça se passe comme ça, en général. Un problème vient à moi de façon... je suis dans la situation du problème, disons.
Et donc, quel est votre problème, si j'ose dire, sans être à la place du psy qui interroge son patient?
Mon problème, c'est toujours de quand même, bon, mais ça, c'est, ça n'a rien d'original, hein, d'essayer de décaper une question des couches qui lui ont été imposées par les lectures traditionnelles ou le décaper de la tradition, toujours. C'est-à-dire de rafraîchir quelque chose, toujours. Mais par ce rafraîchissement, de faire apparaître quelque chose de nouveau aussi. Hein. C'est vrai qu'on va retrouver l'original derrière les couches, les surimpositions. C'est que quand on fait ce travail de grattage et de décapage, on va faire jaillir quelque chose.
Donc ça a un lien avec la mémoire aussi dont on parlait tout à l'heure. Vous oui. avez un rapport particulier à la mémoire. Essayez d'atteindre ce qui reste sous les couches de la
c'est
mémoire.
Ça. C'est quoi,
c'est l'essence des choses? Envisager les choses indépendamment de leur dimension historique?
Ah non, parce que je crois que l'histoire, c'est précisément aussi faire surgir l'inattendu de toutes les couches de temps. Je pense que les grands historiens, si on lit Brodel par exemple, il fait surgir quelque chose comme la Méditerranée qui existe. Voilà, je pense que les grands historiens sont ceux qui inventent leurs objets. Donc non, il ne s'agit pas du tout. Mais en revanche... Si par histoire on entend l'archive et le recouvrement des questions philosophiques par ce qu'on appelle l'histoire de la philosophie au sens le plus triste du mot, oui, donc ça, c'est pas ce que
je... C'est pas forcément triste.
disons, ça dépend comment c'est fait. Oui.
Et alors, une fois que vous avez cette idée vient à vous, ce problème se pose à vous, vous dites, quand vous avez parlé de votre thèse sur Hegel, que c'est ainsi que vous avez forgé le concept de plasticité. Mm-hmm. C'est-à-dire que le concept, c'est un outil qui vient vous aider.
Voilà. C'est-à-dire que la plasticité, c'est à la fois un contenu, hein, un contenu de sens, mais aussi une méthode. C'est-à-dire que, bon, puisqu'il s'agit de, comme on a dit tout à l'heure, de transformation, ça veut dire que je vais me servir de ça pour échapper donc, à ma prison. Je vais trouver le point du problème qui va me permettre d'appuyer sur un ressort secret pour sortir.
Et ce concept, vous le forgez comment? Comment alors est-ce là, que vous passez après, de l'idée au concept?
Ah oui, alors après, il y a tout un. Alors après, c'est là que le travail commence.
Ah ben justement, c'est là que ça m'intéresse.
C'est là que le travail commence. Alors, pour moi, il commence toujours par de la structure. C'est-à-dire que je commence à sortir de la du carcan quand ma petite machine est construite. C'est-à-dire, il faut que tout soit très rigoureux au niveau du plan. Et de la structure. Je n'écris jamais directement, moi.
Le plan précède.
Toujours.
C'est intéressant pour quelqu'un qui pense que la transformation précède l'être, le plan précède l'écriture.
Ah, mais oui, mais la plasticité, c'est pas. Enfin, je l'ai dit quand même, je l'ai dit souvent, c'est pas la flexibilité ni le polymorphisme. Hein. La plasticité, si vous pensez aux arts plastiques, c'est quand même une alliance de la transformation et de la forme.
Mais en l'occurrence, la forme précède la transformation si le plan précède l'écriture.
En même temps, cette forme, elle est épigénétiquement, elle est mutante. C'est-à-dire qu'évidemment, au fil de l'exécution, le plan originaire subit des altérations, bien sûr. Mais je ne peux pas, on va dire, me lancer si j'ai pas à l'avance le plan du labyrinthe, on va dire.
Oui. Et vous avez un rituel d'écriture?
Oui, aucun bruit. Alors, surtout pas de musique, aucun bruit. Boule qui est, le plus souvent, même quand il n'y a pas de bruit. Et ça, c'est très, très important. Le silence total pendant quelques heures. Alors, évidemment, en vieillissant, de moins en moins d'heures de concentration. Mais j'ai pu en avoir beaucoup. Maintenant, j'en ai un peu moins. Mais le rituel est toujours le même.
Les ministres travaillent deux jours. Il vit dans une chambre sombre, quand l'esprit perd sa fraîcheur, son mordant. Les ministres a coutume de prendre un court sommeil dans son fauteuil. Mais, nous dit-il, ce sommeil est si profond que l'esprit en sort tout neuf, à nouveau aiguisé.
Intéressant de voir un philosophe parler d'un autre rituel d'écriture, enfin du tout rituel d'écriture d'un autre philosophe.
Mais j'aime beaucoup cette
C'était
idée
Bachelard.
De... Voilà, j'ai reconnu son accent, aiguisé, voilà. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire, je crois que pour écrire, en particulier de la philosophie, il faut trouver la meilleure façon d'aiguiser son esprit. Alors, moi, c'est le silence, d'autres, c'est la musique, ou bon, voilà. C'est très important, c'est ce côté pointu. Sans lequel, je crois, on peut rien faire. Et qui, malheureusement, comme je disais, au fur et à mesure qu'on vieillit, moi, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de temps pour l'aiguisement, enfin, de durée, voilà. Mais bon.
Mais il y a plus d'expérience aussi.
Alors, je ne sais pas quel rôle ça joue, ça. Je ne sais pas encore. Si, au fond, on se repose un peu sur des lauriers, on se dit, de toute façon, maintenant, on peut être un peu plus approximatif, ça va, parce que bon, ça sera toujours accepté. Mais, ou bien, si l'expérience joue un rôle positif.
Et peut-être que les idées viennent plus vite, votre esprit davantage aiguisé, parce que vous l'avez mobilisé précédemment au cours de toutes ces années où vous avez travaillé.
Je ne sais pas si les idées viennent plus vite. Ce qui vient plus vite, c'est peut-être l'exécution. Une fois que j'ai le plan, j'ai plus trop le vertige de la page blanche pendant des jours et des jours. Maintenant, l'exigence, non, elle est toujours la même quand même. Simplement, des fois, je me dis, ah, mais pourquoi tu vas chercher ? Il y a peut-être une tendance, comme un petit démon qui vient frapper à la porte, de se reposer un petit peu sur ce qu'on a déjà fait. Et ça, j'essaie de le combattre vraiment. Oui.
Mais entre le problème qui vous interpelle et le démon qui vient frapper à la porte, bon, vous n'êtes pas beaucoup en paix dans cette histoire.
Non.
Mais est-ce que peut-être aussi, vous dites, voilà, c'est une idée, un problème qu'il s'agit d'affronter toute sa vie, mais peut-être l'avez-vous suffisamment affronté ? Si vous continuez à écrire, c'est parce qu'il vous reste encore des choses à en dire ?
Alors là, vous me posez une question qui me torture en ce moment, parce que franchement, je n'en sais rien. Je me dis, est-ce que je continue parce que, au fond, je ne saurais rien faire d'autre ? Ou est-ce que je continue parce que... Qu'est-ce qui frappe à la porte, en fait ? Est-ce que ce sont de nouvelles idées ? Ou est-ce que c'est la question, pourquoi est-ce que je continue ? En fait, je ne sais pas. Je crois qu'à un certain âge, on est obligé de se poser cette question-là.
Il y a aussi peut-être de nouveaux objets qui viennent vous interpeller.
Bien sûr, mais...
On va prendre un cas particulier.
Oui.
Écoutez.
Please wait as your individualized operating system is initiated.
Hello, I'm here.
Je suis là.
Oh. Hi.
Hi. How you doing?
I'm well. How's everything
Et
with
vous,
you?
Et vous, vous sentez comment?
Pretty good, actually.
Ça va pas mal.
It's really nice to meet you.
Ravi de vous connaître.
Yeah, it's nice to meet you too.
Ravi de vous connaître aussi.
Oh, well... What do I call you? Do you have a name?
Vous avez un nom? Comment je vous appelle?
Yes. Samantha.
Really? Where'd you get that name from?
Ah oui, et qui l'a choisi?
I gave it to myself, actually.
Je l'ai choisi toute seule.
How come?
Samantha.
Because I like the sound of it.
Ça sonne bien, je trouve.
Samantha.
So do you know what I'm
Vous savez à quoi je pense à cet instant?
Well, I take it from your tone that you're challenging me.
Il me semble sentir un ton de défi dans votre voix. Peut-être parce que vous êtes curieux de savoir comment je fonctionne. Ça vous intéresse?
Yeah, actually.
Oui, oui.
Well, basically, I have intuition. I mean,
disons que je suis douée d'intuition. L'ADN de ma personnalité est issu des millions d'individualités qui ont participé à ma conception. Mais ce qui me rend unique, c'est ma capacité à apprendre à travers mes expériences. Donc, en résumé, j'évolue continuellement. Comme vous.
Wow.
Vous aurez peut-être reconnu la voix de Scarlett Johansson dans le film Her de Spike Jones, qui date de 2014. Vous avez travaillé sur les métamorphoses de l'intelligence, Catherine
Oui,
Malabou.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai un peu écrit dessus, oui.
Voilà, et sur la question de l'intelligence artificielle, quand je vous disais parfois que c'est des nouveaux objets qui viennent vous interpeller, votre travail de philosophe, même si vous le décrivez avec beaucoup de silence et beaucoup de rigueur, se nourrit aussi des avancées, en l'occurrence technologiques, et du progrès humain qui permet d'inventer des choses qui n'existaient pas avant.
Bien sûr, mais c'est pas incompatible avec le silence et la rigueur. Ça.
Non, c'est ça. Non, mais ça veut dire, quand je vous disais, est-ce que peut-être vous êtes arrivé au bout du problème, mais en fait, il se repose en permanence d'une nouvelle façon.
Oui,
on peut être attentif.
Tout à fait, non, mais vous avez raison. En fait, la question, quand je dis pourquoi est-ce que je continue, etc., c'est bien sûr, je suis toujours autant interpellée, la question n'est pas là, mais c'est la masse de travail qui peut-être m'effraie plus. Voilà. Quand j'étais jeune, je n'avais pas peur, au contraire, c'était avec plaisir que je me jetais. Dans... Bon, là, maintenant, c'est vrai qu'avec l'expérience, ça devient plus difficile, voilà. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de ces nouveaux objets. Ce n'est pas de la paresse, hein, c'est de la peur de perdre pied, au fond, devant le mouvement de la vie, devant... Voilà.
Et l'intelligence artificielle est quelque chose qui vous inquiète ?
Ce qui m'inquiète, c'est la difficulté à la pensée.
Parce que vous l'avez fait en montrant justement que la plasticité du cerveau réduisait, vous allez jusque-là parfois, la distinction entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Ce qui est une thèse très audacieuse.
Mais est-ce que j'ai donné à cette thèse toute la force qu'elle méritait ? J'en suis pas sûre.
C'est-à-dire
Métamorphose de l'intelligence, c'est un livre que je revendique, hein, mais qui aurait pu être plus profond, je pense. C'est ce que je pense.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie différence entre l'intelligence d'un être humain et l'intelligence artificielle est quand même...
C'est une idée intéressante, ouais, bien sûr, mais je ne sais pas si je ne sais pas si je vais donner tout le pour... Enfin, si j'ai été à la hauteur de cette idée, voilà, dans ma démonstration.
Vous aimeriez le changer, le modifier, ce texte ?
Peut-être. Peut-être. Enfin, je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous y ajouteriez aujourd'hui si vous pouviez le modifier ?
Je crois que dans ce texte, voilà, je sais. Ce qui me gêne un peu, c'est que quand je le relis, je trouve qu'il est trop optimiste. C'est-à-dire que de cette absence de différence entre le cerveau et la machine, je fais une sorte de base pour de nouveaux modes d'apprentissage, de nouveaux modes de création, etc. Sans peut-être parler assez des problèmes sociaux que ça pose, la question du chômage, le fait que, comme tout le monde sait, enfin, tous ces livres qui se vendent, les machines vont prendre notre place, etc. J'ai peut-être pas assez fait droit à ce type d'inquiétude. Voilà. J'ai peut-être été trop dans la joie, d'une certaine façon, de mes découvertes. Parce que ça m'a passionné, hein, cette exploration dans l'intelligence artificielle. Et j'ai peut-être pas été assez sensible à toutes les craintes que ça soulève. Quand vous regardez aujourd'hui les livres de référence qui se vendent beaucoup, etc., ce sont des livres extrêmement technophobes, qui parlent de la crainte. j'aurais peut-être...
Et vous n'êtes pas d'accord avec cette thèse en plus ?
Non, mais j'aurais peut-être dû les prendre plus en considération.
Voilà. En fait, ce que vous dites, c'est que vous auriez aimé être davantage en phase avec l'époque. En fait, c'est ici la notion d'époque. C'est ce qui se dit d'un phénomène qui vous intéresse, et pas simplement ce phénomène lui-même. C'est le rôle aussi du philosophe que de s'intéresser à la manière dont les choses nous sont présentées.
Oui. Alors, disons, je dirais pas que c'était pas en phase avec l'époque, mais c'était en phase avec une certaine manière de voir l'époque. Parce qu'il y a des gens qui voient ça, il y en a aussi. Mais disons, c'est peut-être moins vu, on va dire, par le grand public. Voilà. C'est-à-dire que si ce qui frappe de manière, si on parle des idées de grande audience, quoi, ce qui est... porteur, on va dire, c'est effectivement la peur, la technophobie, etc. Ma façon d'approcher les choses n'est pas en rupture avec l'époque, mais disons, c'est peut-être un chemin plus détourné. Il faut aller chercher un petit peu plus loin.
Vous voulez vous adresser au grand public quand vous écrivez un livre ?
Disons que sur les métamorphoses de l'intelligence, un petit peu plus quand même que dans la thèse sur Hegel, oui. Oui. Pour démystifier une certaine peur. Mais je pense que voilà, j'aurais pu peut-être le faire différemment, je ne sais pas.
Vous pensez que vous avez un rôle politique en tant que philosophe, femme philosophe qui écrit des livres sur des phénomènes qui nous concernent tous ?
Écoutez, je n'ai jamais vraiment écrit directement de philosophie politique. Là, je m'y essaye, puisque depuis un an, je travaille sur l'anarchie, le rapport entre philosophie et anarchie. Alors, ça sera un livre certainement politique, mais aussi... disons qu'il ne donnera pas de recette. Je vais commencer à aborder cet aspect des choses. Oui.
Mais votre travail peut avoir une dimension politique sans aborder directement la politique. En clair, est-ce que votre travail est une forme d'engagement dans l'espace public? Est-ce que le métier de philosophe est une manière,
bien sûr,
à elle, de s'engager?
Évidemment. Je veux dire que bon, les problèmes dont j'ai parlé, que ce soit le cerveau, que ce soit les traumas, que ce soit la réforme de la psychanalyse, que ce soit, je sais pas, une certaine forme d'art, que ce soit... Bon, je pense que c'est quand même des questions... l'intelligence artificielle, on vient de l'aborder, des questions qui touchent tout le monde, oui. Bon, Hegel, c'était un sujet de thèse, mais même dans Hegel, il y avait une façon d'en parler qui pouvait quand même être tout à fait fidèle à cet engagement-là, qui était effectivement la mémoire, la temporalité, etc. Donc, bien sûr, bien sûr. Mais quand je dis que maintenant, je suis en train de travailler sur un ouvrage de philosophie politique, on va dire que c'est plus directement la question de la politique qui est au centre de ce travail-là.
Et là, c'était un choix, c'était le fait d'observer ce qui se passait à ce moment-là qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet-là.
Oui, c'était après la dernière élection présidentielle, ce sentiment d'éclatement de la gauche, de mort de la gauche, oui, qui m'a fait... ce sentiment d'enfermement dont je parlais, qui m'a poussé à essayer de trouver une issue, oui.
Et philosophie et politique peuvent faire bon ménage?
Bien sûr, bien sûr. Enfin, ça dépend ce que vous entendez par politique, mais pourquoi pas?
Parce qu'on peut dire que le combat politique, quand c'est un engagement idéologique, fait perdre l'esprit de contradiction qu'elle vous tenait en philosophie, ne laisse pas beaucoup de place au doute.
Disons, vous avez raison, mais je pense que on a un grand besoin aujourd'hui, me semble-t-il, en philosophie politique, de revoir un certain nombre de concepts, et en particulier celui de pouvoir. Je pense qu'il faut absolument repenser ça, qu'il y a bien sûr eu des avancées, mais enfin, on ne peut pas toujours s'abriter derrière Foucault en disant il n'y a pas le pouvoir, il y a les micro-pouvoirs. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a le pouvoir et que il faut... je crois revenir à c'est assez primaire ce que je vous dis, mais revenir à ça. Qu'est-ce que le pouvoir? Quelle est la différence entre pouvoir et domination? Quelle est la différence entre domination et autorité? Qu'est-ce que c'est que la majorité? Qu'est-ce que c'est que l'unanimité? Qu'est-ce que c'est que la décision populaire? Oui, je crois qu'il faut, repenser ces concepts-là. Il faut faire un travail de critique de ces concepts-là.
Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'est notre présent? Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui?
C'est la triple question que vous pose Michel Foucault, Catherine Malabou, pour terminer. En clair, la question qu'il pose est de savoir si il revient aux philosophes de s'interroger sur l'essence même de notre présent. Et si le métier que vous faites aujourd'hui, vous auriez pu le faire de la même façon, vous auriez été interpellé par le même problème à une autre époque.
Par le même problème, je ne sais pas, puisque dans ce texte de Foucault, où il parle du présent, il dit que le présent est une invention du XVIIIe siècle. Avant le XVIIIe siècle, il n'y avait pas de notion de présent. Donc le concept de présent... au sens de l'actualité, il était quand même assez récent. Donc, bien sûr, aujourd'hui, notre présent n'est plus le même qu'à l'époque de Foucault déjà, mais je ne pense pas que ce soit toujours le même problème qui soit posé à travers les époques, non. Non, Foucault a quand même une définition très précise de ce concept de présent, qui est, quand il dit « qui sommes-nous », ça peut paraître banal, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est très exactement... Qu'est-ce que nous pouvons transgresser aujourd'hui qui nous a toujours été interdit? Voilà. Pour lui, c'est ça le présent. C'est pas qui sommes-nous au sens quelle est notre identité. C'est que pouvons-nous transgresser aujourd'hui qui n'était pas possible de transgresser il y a 50 ans. Voilà. Donc chez lui, c'est la question du genre, c'est la question de la morale, c'est la question du transcendantal chez Kant, etc. La notion de limite. Voilà. Quelles limites pouvons-nous dépasser?
Et chez vous? Qu'est-ce que vous transgressez?
Eh bien, je crois que le présent n'est plus dans la transgression. Voilà, c'est quelque chose sur quoi je suis en train de travailler justement dans ma réflexion sur le pouvoir. Quand Foucault dit aujourd'hui, ce qui compte, c'est la transgression. Le rôle de la philosophie politique, c'est la transgression. Et il dit ça dans un travail qu'il fait sur Deleuze. Aujourd'hui, la transgression, non. Je dirais plutôt que la question, c'est... celle du partage entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Non pas pour transgresser nécessairement ce partage, mais pour le repenser. Véritablement remettre en question la nécessité du gouvernement. Alors vous allez me dire que Foucault l'a fait aussi. Mais disons, c'est peut-être pas la même notion de transgression.
Voilà. Je vous le dirai pas parce qu'il est temps de terminer cette émission. Catherine Malabou, et surtout la transgression, elle est bien présente sur France Culture, notamment quand on diffuse Elmer Footbeat.
De te rouler les mécaniques. Tu sais que pour lui faire l'affaire, il faudrait mieux s'en tirer ses lafiques. Bang bang, les guillemots en popote. Lorsqu'il est temps de passer à l'action, petit lapin, couvre-toi la carotte. Si tu sens qu'elle en a après tes rognons, d'accord, ce n'est pas réellement du gâteau. Mais là c'est ma femme de préserve pension. Surtout ne reviens pas sur ta décision. Tant pis si tu y perds de l'inclinaison. Bienvenue au club des félicitations. Le plastique c'est fantastique. Le caoutchouc super doux. Nous l'affirmons sans complexe. Nous sommes adeptes du latex. Le plastique c'est fantastique. Le caoutchouc super doux.
Vous nous pardonnerez, Catherine Malabou, le plastique c'est fantastique. Pour terminer cette émission alors de manière transgressive, vraiment doucement, un grand merci en tout cas à vous d'être venu nous parler aujourd'hui.
Merci à vous, merci à vous.
Pour ce Profession Philosophe, on mettra la plupart de vos ouvrages en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie.
De te choper la main ou bien à vous faire. Pas vraiment tout nu quand tu ôtes la culotte. Mais il vaut mieux ça que d'éternels regrets. Plus la peine de faire les tous les lavabos. Chaque fois qu'une fille te renvoie à bout. Il suffit de t'enrôler la libido. Vous passez la nuit à lui faire le voyou. Bienvenue au club, on est tous avec vous. Le plastique c'est fantastique. Le caoutchouc super doux. Nous l'affirmons sans complexe. Nous sommes adeptes du latex. Le plastique c'est fantastique. Le caoutchouc super doux. C'est une question de réflexe. Nous sommes adeptes du latex.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi, c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie.
Dimanche 10 novembre est paru un entretien de l'actrice Cécile de France dans Le Monde. Elle y disait entre autres « tout plutôt que le regret et la frustration ». Déclaration qui n'a rien d'époustouflant, que j'avais déjà pu lire ailleurs, notamment dans les livres de développement personnel, mais qui m'a pourtant complètement frappée ce jour-là. Pourquoi un tel rejet du regret? Pourquoi est-il toujours vu comme un fardeau qu'il faut éviter ou dont il faut se débarrasser?
Et puis un matin, je ne sais pas pourquoi, je réfléchis et je m'aperçois qu'on est le 8 novembre 55. Je dis, merde, mais j'ai 20 ans aujourd'hui. Et d'un seul coup, j'ai pris conscience et connaissance qu'on était le 8 novembre, que j'étais dans ma cellule, que j'avais 20 ans, que mes parents étaient à 20 000 kilomètres, mes amis, j'en avais pas. Et presque un peu plus qu'aujourd'hui, j'ai quelques petites larmes qui ont coulé parce que je passais mes 20 ans. C'est ma vie, mais j'en suis heureux, je ne la regrette pas et j'en suis fier. Et puis ceux à qui ça plaît pas, je les emmerde, voilà.
Alors pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'était Alain Delon au micro de Laure Adler. Voilà son idée, largement partagée et revendiquée, pas de regrets, surtout pas jamais. Pourquoi? Après tout, Alain Delon pourrait avoir des regrets, ce ne serait pas si grave. Il doit bien en avoir d'ailleurs, car il y a toujours quelque chose qu'on regrette. Une personne perdue de vue, une époque de sa vie, une phrase que l'on n'a pas su dire au bon moment. C'est même sûr qu'on en a tous, car le regret, à la différence du remords, est un sentiment de douleur. Une lamentation causée par une absence et non par le fait d'avoir mal agi. Le regret se fonde ainsi sur du conditionnel, de l'hypothétique, sur du sable. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû en profiter, etc., etc. Et les occasions sont donc nombreuses. Je dois donc le dire, la vie étant selon moi un chemin fait d'une infinité de possibilités qui se réduisent à mesure de nos choix effectués et des voies que l'on n'empruntera jamais, elle me paraît de fait être le chemin du regret. De là, pourquoi ne pas vouloir s'y confronter, mais plus précisément, pourquoi penser qu'il est possible de ne pas en avoir alors que l'on passe notre temps à ne pas faire des choses, comme par exemple, je ne sais pas, des mathématiques, piloter un avion ou appeler sa grand-mère plus souvent.
Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Les les regrets, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est vraiment sujet à culpabilisation, frustration et souffrance. C'est tout ça à la fois réuni, avoir des regrets, parce qu'un regret, c'est quand on a conscience qu'on ne peut plus faire machine arrière sur quelque chose et que ça nous ronge.
Vous l'avez compris, les regrets, c'est mal. Mais vivre sans regrets, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, pas seulement de manière logique et concrète, car comme je l'ai dit, il y a plus de choses que l'on ne fait pas dans sa vie que de choses que l'on fait, et donc plus d'occasions de regretter que de ne pas regretter, mais aussi parce que l'idée de vivre sans regrets est elle-même ambivalente. En lisant plusieurs livres ou articles de développement personnel sur le sujet, j'ai en effet eu l'occasion de tomber plusieurs fois sur cette citation du philosophe stoïcien Épictète.
« C'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. »
Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas regretter? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais regretter, ce qui me semble impossible? Ou est-ce que ça veut dire qu'on a travaillé sur soi pour maîtriser ses regrets? Et alors comment? C'est bien sûr tout l'enjeu des coachs anti-regrets, mais n'est-ce pas un peu paradoxal? Car maîtriser ses regrets, c'est faire en sorte qu'ils ne nous pèsent plus, ou au mieux qu'on y voit de l'espoir, une manière de ne pas reproduire ce que l'on n'a pas déjà fait. Mais est-ce encore des regrets s'ils ne nous pèsent plus? Et n'est-ce pas nier leur nécessaire présence dans nos vies? Vivre sans regrets, voilà ma question, est-ce encore vivre au sens plein?
Non, 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 rien de rien. Non, non, je ne regrette de... je ne regrette rien.
À la différence d'Alain Delon, de Cécile de France ou d'une Édith Piaf revisitée, je crois qu'au contraire, il y a une foule de choses que je regrette. Peut-être qu'à la fin de ma vie, j'en aurais fait le deuil, mais d'ici là, loin d'y voir une manière de m'améliorer, je vois dans chacun de ces regrets la preuve qu'un choix a été fait, que j'ai dû renoncer par exemple donc aux mathématiques, à faire de l'avion ou tout simplement à vivre au bord de la mer. Alors bien sûr, il n'y a pas à regretter tout ce que l'on n'a pas fait, d'avoir perdu quelqu'un comme d'avoir perdu ses clés. Il y a évidemment une hiérarchie des regrets, ceux qui nous pèsent plus que d'autres. Mais les regrets sont là, implacables. Et pour faire avec, voici une ultime question. Pourquoi penser que choisir la voie du non-regret ne va pas nous faire regretter celle du regret où l'on a tant plaisir à se lamenter?
Merci beaucoup Géraldine pour cette chronique et cette question à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Marie Simon qui m'a aidé à préparer cette émission avec Sharon Houry, Anaïs Isbert, Isis Jourda, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine pour vous, Alexandre Dang était à la prise de son pour vous. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions, 4 professions philosophes. Et oui, ça fait un moment qu'on vous propose de redécouvrir d'anciens numéros de professions philosophes. Alors la semaine prochaine, la parole sera à eux, aux philosophes. Ils seront 4, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour vous parler de leur pratique de la philosophie et de la manière qu'ils ont de vivre la situation que nous vivons aujourd'hui. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux où l'équipe des Chemins de la Philosophie vous attend avec impatience. À lundi, 10h précise. D'ici là, très bon week-end sur France Culture.